mimétiquement vôtre, Voir le monde avec René Girard.
Une émission proposée par Jean-Louis Salasque.
Bonjour Catherine, bonjour aux auditeurs.
Bonjour Jean-Louis.
Je me propose cette semaine d'évoquer le domaine de la finance.
Voilà qui est surprenant. Est-ce à dire que la théorie de René Girard y apporte des éclairages ?
Girard lui-même ne s'est pas penché sur ce domaine, mais plusieurs économistes l'ont fait en s'inspirant de sa vision. On peut citer par exemple Jean-Pierre Dupuy, André Orléans ou Michel Alietta.
Lorsqu'on évoque le domaine financier et le mimétisme, on pense tout de suite au comportement moutonnier des investisseurs à la bourse. Est-ce là le point d'accroche avec l'anthropologie mimétique ?
En effet, c'est bien là le point d'accroche. Les auteurs que je viens de citer, et bien d'autres, en sont partis et l'ont largement approfondi. L'un d'entre eux, André Orléans, s'est efforcé de comprendre si le mimétisme dans le fonctionnement économique était ou pas une bonne chose.
Et quelle est sa réponse ?
Sa réponse est typiquement girardienne. Le mimétisme peut être bon, mais il peut être aussi mauvais. Il peut orienter les investissements de façon positive pour l'ensemble de la société. Il peut également engendrer des bulles spéculatives qui sont au contraire néfastes.
Voyons donc cela de façon plus détaillée.
Précisons d'abord de quoi nous parlons. Le domaine de la finance, c'est l'activité qui consiste à mettre en adéquation des ressources monétaires avec des opérations économiques. Soit il s'agit de trouver des fonds pour financer tel projet ou telle activité, soit pour qui dispose de fonds, de trouver des projets ou des activités pour les employer. En pratique, cette mise en adéquation se fait de deux façons. La première est le recours au marché financier. On peut y placer des fonds, soit en achetant des obligations, qui sont une sorte de prêt aux États et aux entreprises, soit en achetant des actions, qui sont une sorte de titre de copropriété de l'entreprise qui les a émises. La deuxième méthode consiste à souscrire un prêt auprès d'une banque. Tous les acteurs économiques, que ce soit des particuliers, des entreprises ou les États, tous ont des projets, dépenses et épargnes. Tous sont donc concernés par le domaine de la finance.
Pas toujours. Les particuliers qui gagnent tout juste de quoi vivre ne sont pas dans ce cas.
Ils le sont de façon indirecte. Par exemple, ils ont des polices d'assurance obligatoires. Les fonds collectés par les compagnies d'assurance sont considérables et elles se trouvent à devoir les placer. Et puis, les entreprises où travaillent les personnes dont tu parles, l'État qui soutient les personnes privées de ressources, tous ont recours aux marchés financiers, aux emprunts. Il est donc important pour tout le monde que les décisions de placement et d'investissement des fonds soient les meilleures possibles.
C'est-à-dire qu'elles puissent rapporter le maximum de profits aux investisseurs ?
Ce n'est pas le seul aspect de la question. Prenons l'exemple d'Internet et du numérique. Des entrepreneurs ont fait fortune parce qu'ils proposaient des produits et des services. Les investisseurs qui ont misé sur eux ont bien sûr gagné de l'argent, mais il ne faut pas oublier l'utilité sociale considérable de ces produits et de ces services. Ils ont apporté à beaucoup de personnes de quoi améliorer leur existence, et de ce point de vue, on peut dire que le financement de ces projets a été bénéfique pour tous. Après cela, la question du niveau des bénéfices respectifs et de leur juste répartition est une question politique. Nous en resterons à la question de l'utilité sociale d'un point de vue global. Si le fonctionnement des marchés financiers oriente tous les fonds disponibles vers des projets inutiles et coûteux pour l'ensemble de la société, peu importe que ces projets ruinent ou enrichissent quelques investisseurs, nous le tiendrons pour un mauvais fonctionnement. Là où nous retrouvons René Girard, c'est que le fonctionnement des marchés est fortement tributaire du mimétisme. Les acteurs des marchés, comme tu le disais, sont sujets à un comportement moutonnier. Les spécialistes ont poussé un peu plus loin l'analyse du phénomène, et voici leur constat. Nous avons d'abord un mimétisme qualifié de normatif. Pour appartenir à un groupe, il faut faire comme les autres. C'est un trait général, et il n'est pas spécifique aux acteurs des marchés financiers. Nous trouvons ensuite ce que les spécialistes ont baptisé le mimétisme informationnel. À tort ou à raison, l'un des acteurs est considéré par les autres comme un expert qui détiendrait les bonnes solutions. Tous se mettent donc à imiter, tout à fait consciemment, les choix qu'il fait. Certains, comme le gestionnaire de fonds et milliardaire Warren Buffett, se plaisent d'ailleurs à incarner ce rôle d'oracle de la finance. Mais attention, il ne faut pas qu'ils se trompent. En cas d'erreur, les imitateurs ruinés rendraient l'oracle responsable de leur infortune. Nous reconnaissons ici le schéma girardien de base. Quelque chose n'est désirable que si un médiateur nous la désigne comme telle. J'achète ses actions si je vois Warren Buffett en acheter. Une troisième forme est le mimétisme autoréférentiel ou auto-entretenu. Il n'y a plus d'expert censé savoir quelle est la bonne option. Il s'agit alors de suivre ce que l'on croit être l'option majoritaire. Et si tous les acteurs la suivent, elle devient effectivement majoritaire. C'est ce que l'on appelle aussi la prophétie autoréalisatrice. La publicité utilise à fond ce mécanisme avec des mentions comme « le café préféré des Français » ou d'autres dans le même esprit. C'est toujours le schéma de René Girard. Le rôle de médiateur ou d'expert est attribué à la majorité. Les spécialistes des marchés ont également constaté un mimétisme de justification. L'investisseur ne sait que choisir, il ne voit pas d'expert et il doute même de l'option choisie par la majorité. Mais il la retient quand même en se disant « si c'est un échec, au moins je ne serai pas seul ». Si c'est un intermédiaire qui a investi pour le compte de clients, c'est aussi une manière de se justifier vis-à-vis d'eux.
Tu disais que le mimétisme, quelle que soit sa forme, influe sur la qualité de fonctionnement des marchés.
Oui. C'est l'économiste André Orléans qui a mis ceci en évidence. André Orléans s'intéresse aux sciences sociales et il a intégré les apports de l'anthropologie de René Girard dans ses travaux. Résumons en gros son approche. S'il n'y a aucun mimétisme parmi les acteurs des marchés financiers, les projets innovants ne sont jamais financés, car il serait trop long et parfois impossible que tous les investisseurs potentiels parviennent à se faire une idée précise et personnelle de ce type de projet. Surtout s'il est un peu technique ou difficile à saisir. Les fonds disponibles resteraient alors éparpillés dans toutes sortes de projets. Inversement, si le mimétisme est important, l'effet autoréférentiel conduit à la création de bulles spéculatives, c'est-à-dire des cumuls de fonds qui sont largement supérieurs à la valeur des projets qu'ils financent. C'est le cas de la start-up dont tous les investisseurs s'entichent et qui se retrouve avec davantage d'argent qu'elle en a besoin. C'est la survalorisation boursière de certaines entreprises. À un moment ou à un autre, la réalité de ce que peut apporter les entreprises surcotées apparaît au grand jour, la bulle explose et des investisseurs sont ruinés. André Orléans en arrive ainsi à considérer qu'une certaine proportion de mimétisme est positive et même nécessaire, mais qu'au-delà de cette limite, elle entraîne des bulles qui sont des échecs des marchés financiers quant aux critères d'apporter des fonds aux projets et activités globalement utile à la société.
Quelle est cette bonne proportion de mimétisme ?
C'est ce que tout le monde aimerait savoir. Elle existe, mais personne ne la connaît. Cependant, il existe au moins un critère pour savoir que nous sommes au-delà de la bonne proportion de mimétisme, et cela sans attendre que la bulle n'explose. Ce critère, c'est la capacité des groupes à accepter des points de vue divergents. Quand tout le monde reste figé sur un consensus, et que les visions discordantes sont systématiquement expulsées, sans même être examinées, alors nous pouvons être sûrs que la proportion de mimétisme est excessive et que le risque augmente de maintenir des choix qui finiront par conduire à l'échec.
Aurais-tu un exemple ?
Un exemple frappant est celui de la survalorisation immobilière aux États-Unis qui a conduit à la grande crise de 2008. Tout le monde croyait que l'immobilier américain n'allait jamais cesser de monter. Des particuliers ont quitté leur travail pour gagner leur vie en achetant et en revendant des maisons. Les banques prêtaient à profusion, sans s'inquiéter de savoir si leurs clients seraient toujours en mesure de rembourser. En 2008, ce consensus s'est révélé un leurre. Les emprunteurs ont commencé à ne plus pouvoir rembourser. La banque Lehman Brothers a fait faillite. Des dizaines de milliers de particuliers se sont retrouvés à la rue, tandis que des logements que plus personne ne pouvait payer se retrouvaient abandonnés. Les États-Unis ont alors connu leur plus sévère récession depuis la crise de 1929 et elle s'est propagée au monde entier.
En conclusion, quel enseignement pouvons-nous tirer de cette présence du mimétisme dans le fonctionnement des marchés financiers ?
C'est d'abord un exemple de plus qui confirme le rôle central du mimétisme dans le comportement humain. Ensuite, nous retrouvons l'un des points clés de l'anthropologie de René Girard, l'ambivalence du mimétisme. Il peut être, dans certains cas, positif, comme dans l'éducation et la transmission, dans d'autres cas, négatif, lorsqu'il déclenche des rivalités et engendre de la violence. Cette ambivalence se retrouve dans le cas des marchés financiers. Le mimétisme à petite dose favorise la bonne affectation des ressources disponibles. À trop forte dose, il conduit à des bulles spéculatives. Enfin, l'étude du fonctionnement des marchés financiers a permis de préciser diverses formes du mimétisme qui complètent la vision de René Girard. En particulier, le mimétisme informationnel et le mimétisme de justification nous montrent des acteurs qui choisissent délibérément d'en imiter d'autres. Alors que dans la vision classique de René Girard, on conçoit plutôt le mimétisme comme un phénomène inconscient.
Ainsi se termine donc notre émission. Au revoir Jean-Louis.
Au revoir aux auditeurs, au revoir Catherine.